Des pieds, ça fait partie des rites d'accueil de l'étranger ou du voyageur quand il entraîne dans une maison. Ici, je pense qu'il y a quelque chose de très radical qui est également évoqué par Jésus. Je reprends un passage de l'évangile de Jean. « Vous m'appelez le maître et le seigneur et vous le dites bien car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns des autres. Je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Vous serez heureux si du moins vous mettez cela en pratique. » Je pense que c'est un des cœurs ici de ce texte. D'une part, Jésus assume le fait qu'il a de l'autorité, qu'il a du pouvoir. Vous m'appelez maître et seigneur et je le suis. Mais ce qui est original, c'est la manière dont il occupe cette place de maître et de seigneur. Il va l'occuper du côté du service. Je pense que ce geste fait sur fond d'une position radicale vis-à-vis des façons d'exercer le pouvoir dans la société. Et là, je pense que Jésus reste encore quelqu'un qui a des choses à nous dire de ce côté-là. Celui qui est le maître, c'est celui qui est capable, en définitive, de se mettre au plus bas pour aider les autres.
Effectivement, cet épisode du lavement des pieds, c'est un signe, comme vous l'avez dit, d'humilité, un signe également de respect. Cet épisode revêt-il une résonance particulière pour l'homme d'aujourd'hui, dans un monde ballotté par de multiples crises, qu'elles soient économiques, politiques, sociales, également identitaires ?
De l'exercice des pouvoirs. On sait qu'aujourd'hui, l'une des critiques des peuples vis-à-vis de tous les types d'autorités, que ce soit politique, religieuse, culturelle, que sais-je encore, une des racines les plus critiques, c'est le sentiment que les pouvoirs abandonnent les gens. De ce côté-là, ce texte d'évangile dit des choses encore fortes et précieuses pour aujourd'hui. Au fond, c'est quelle est la signification du pouvoir ? Est-ce qu'on exerce le pouvoir pour soi, pour s'élever soi-même, ou au contraire, au bénéfice des peuples, des gens de qui on est solidaire ? Je rappelle que dans les états de droit, commencé par la République française, un des mots qui sert à désigner les membres d'un gouvernement, c'est le mot de ministre. C'est exactement le mot qui également servait à désigner les pasteurs dans les églises chrétiennes. D'autorité originale dans le judaïsme puis dans le christianisme. Je me permets de faire juste un petit point de recul. Dans la cité grecque, c'était les lois qui tenaient, qui étaient considérées comme tenant la cité dans l'unité. Il revenait aux magistrats, donc aux chefs de la cité, de faire appliquer les lois. Reste que les Grecs ont toujours espéré que le magistrat soit philanthrope, c'est-à-dire qu'il soit solidaire et bienveillant vis-à-vis des citoyens. Mais du côté de la communauté juive, et cela va être repris dans le christianisme, c'est la figure du pasteur qui garantit l'unité du peuple. Et le propre du pasteur, c'est qu'il est généreux. Et il est généreux jusqu'à l'extrême, c'est-à-dire qu'il est capable de donner sa vie pour son peuple, y compris pour chaque membre du peuple qui serait égaré. Alors vous voyez que du côté du christianisme, et c'est l'évangile de Jean, Jésus incarne cette figure du bon pasteur qui est capable de se dévouer jusqu'à la démesure pour sauver les autres. Au fond, ce que dit la Bible, ce que dit la foi chrétienne quand on évoque ce geste de Jésus de servir ses disciples, c'est que pour faire une société, il ne suffit pas d'avoir des lois, des procédures, je ne dis pas qu'il ne faut pas la loi. Mais ce que dit la Bible, c'est qu'il y faut aussi de la générosité, il faut aussi de la bonté, il faut aussi de la bienveillance, il faut aussi une capacité de servir l'autre. Une société se fait aussi de façon crédible et heureuse dans l'acte des uns et des autres d'être solidaires réciproquement. D'ailleurs, un certain nombre de gens l'ont entrevu pour notre propre société. Et s'il y a de l'agressivité, c'est probablement aussi parce que nous ne savons plus irriguer suffisamment le lien social de bienveillance, de reconnaissance. Toutes les mesures coercitives du monde ne sauront pas remplacer cette dimension-là. Et beaucoup de gens aujourd'hui sont en recherche de reconnaissance de ce côté-là. Et peut-être qu'il y a des transgressions de certaines jeunesses qui sont au fond aussi une quête de reconnaissance, en particulier de la part de l'ensemble de la société et également de la part des dirigeants.
Le jeudi saint est également le jour de la dernière scène qui institue l'Eucharistie. En quoi est-elle importante pour les prêtres ?
Je pense que ça rappelle aux prêtres le cœur de leur ministère. Ça doit rappeler aux prêtres qui ne sont pas là pour eux-mêmes, mais qu'ils sont là pour le service des communautés, des personnes en difficulté. Ils ont à être témoins, au fond, de la générosité sans mesure du Christ dans le monde actuel et dans l'Église. Et je pense que c'est à cela que tous les prêtres sont renvoyés en ces jours de Pâques.
Et aux chrétiens, plus généralement, que dit-elle cette scène ?
La même chose, à mon avis. On est renvoyé à une manière de vivre selon la charité, selon l'agapé, comme dit l'Évangile, c'est-à-dire une manière de vivre qui s'ouvre inconditionnellement à l'autre, à l'étranger, à tout être qui est dans le besoin pour une raison ou pour une autre. Au fond, il s'agit d'aller au cœur, au fond, de l'esprit de la double passion du Seigneur, passion pour Dieu, pour celui qu'il appelle son Père, et passion pour nous, pour tous les hommes.
La scène institue également le sacerdoce des prêtres. Ce message a-t-il encore le pouvoir de toucher le monde sécularisé dans lequel nous vivons ?
Alors, je ne situe pas personnellement le monde sécularisé en opposition à un des groupes religieux ou à tel groupe chrétien. Pour moi, nous sommes, comme chrétiens, pris dans ce monde sécularisé. Nous ne sommes pas en vis-à-vis. Personnellement, je ne me sens pas tellement en affinité avec une répartition des gens entre croyants et non-croyants. Il me semble qu'il s'agit de rencontrer l'autre sur ce en quoi il met son cœur. D'ailleurs, on peut regarder de ce point de vue les attitudes de Jésus. Jésus ne rencontre pas l'autre comme d'abord un païen ou un hérétique. Il considère l'autre dans sa singularité, dans sa richesse, dans son originalité. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons à mettre en rapport notre manière de faire Église avec la société globale, donc pour nous, une société sécularisée. Mais nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons discerner avec finesse, avec acuité, avec profondeur, comment Dieu habite et est à l'œuvre déjà dans ce monde. Dieu fait son chemin dans le monde sécularisé.